Il est 19h, c'est l'heure de l'apéro, mais c'est surtout l'heure de la matinale sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9.
Bonsoir à toutes et à tous. Que ce soit en famille, à la fac, au boulot, avec la pote d'un pote, d'une pote, dans une soirée, où on débarque par hasard, il est partout, le small talk. Alors en général, on raconte notre vie. Toi aussi, tu prends la 7 tous les matins, c'est trop drôle, on a dû se croiser, enfin, je sais pas, c'est fou. Ou alors on parle de notre projet professionnel, nos objectifs dans la vie, ou on cherche des amis en commun. Bref, on raconte souvent la même chose. Donc pour changer un peu, voici quelques anecdotes tirées de l'actualité pour vous inspirer pour de futurs small talk. On sait toujours pas vraiment qui est responsable des fuites de gaz de pipeline Nord Stream 1 et 2. Qui a des idées ? Pour ou contre le vol des grandes enseignes, selon la presse à scandale, les vols à l'étalage vivent un véritable boom cette année en Grande-Bretagne. Et qu'en est-il de la France ? Et puis jamais 203, les punaises de lit. Voilà. Va-t-on devoir annuler les JO à cause de ce fléau ? Qu'est-ce que ce serait dommage ? Bon, ça sera tout. Et on enchaîne avec le sommaire. Avec nous aujourd'hui en studio, Stéphanie de Vancey, enseignante et conseillère nationale de l'UNSA Éducation sur les questions numériques et d'éducation, qui va nous parler d'harcèlement scolaire. Ensuite, c'est Chloé qui accueille NAC pour la sortie de son nouvel album, Peau Neuve. Le tout sera entrecoupé de musique et de chroniques de Constance, Rosalie et Simon. Il est 19h02 sur Radio Campus Paris et nous sommes ensemble pour une heure.
La matinale de 19h.
Et tout de suite, nous recevons donc Stéphanie de Vancey. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, je le rappelle, donc professeure des écoles et depuis plusieurs années, conseillère nationale à la Fédération des syndicats de l'UNSA Éducation sur les questions du numérique et de l'éducation. Peut-être avant de commencer, même si ça peut paraître évident, à partir de quand parle-t-on de harcèlement scolaire ?
En fait, ce n'est pas du tout évident, donc c'est une très bonne question. En France, c'est très récent, c'est moins de 10 ans. La première fois qu'une ministre s'est vraiment préoccupée de la question en tant que telle, en tant que question vive, c'était au moment où on avait comme ministre Najat Vallaud-Belkacem. Et j'ai cherché tout à l'heure, avant que l'émission commence, la première journée de lutte contre le harcèlement officiel était en 2015. Donc il y a 8 ans seulement. Donc c'est quand même très très récent. Et je sais qu'à l'époque, on disait qu'on était très en retard sur plein d'autres pays, notamment les pays d'Europe du Nord et les pays anglo-saxons, qui avaient au moins 10 ans d'avance sur nous, et donc ils les ont toujours.
Et aujourd'hui, on en est où donc de l'harcèlement scolaire en France ? Ça a évolué ?
Alors, je ne sais pas si ça a beaucoup évolué. On a une estimation qui est entre 5 et 6 %, mais c'est très compliqué d'avoir une estimation qui estime en fait quelque chose qui est un continuum. Parce qu'en fait, où est-ce qu'on met la limite entre l'élève qui ne se sent pas bien et qui a des mauvaises relations avec ses camarades et l'élève qui est harcelé ? C'est très compliqué et ça fait partie d'ailleurs des décisions qui ont été prises pour cette année de commencer à faire une enquête de victimation plus sérieuse.
Donc... Et par rapport à avant, ça a évolué ou pas, le nombre de personnes, vous savez ?
Je ne saurais pas dire. Je crains que non. Pense qu'en tout cas, la préoccupation augmente et que ça devient de plus en plus insupportable pour tout un chacun de se rendre compte que 5 à 6 % au moins des élèves sont harcelés dans notre système scolaire.
Et qui est particulièrement touché par le harcèlement scolaire ? Est-ce qu'il serait pertinent d'établir une forme de typologie des victimes de harcèlement, par exemple ?
Alors, je ne suis pas psychologue, mais je vais quand même m'essayer à ce que j'ai compris du sujet. D'après ce que j'ai compris, tout le monde peut être, un jour ou l'autre, victime de harcèlement. Et d'ailleurs, très souvent, les harceleurs sont d'anciens harcelés. Donc, il n'y aurait pas d'un côté le camp des harcelés et de l'autre côté le camp des harceleurs. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On parle aussi souvent des gros, des roux, des personnes qui ont du mal à s'exprimer, des timides, etc. Mais en fait, le harcelé, il est harcelé pour une raison ou une autre qui est mise comme prétexte. Ce n'est pas parce qu'il est roux ou parce qu'il est gros ou parce qu'il est timide qu'il est harcelé. Mais comme il est harcelé, on va appuyer sur une de ses faiblesses. Et par contre, ce qui est très préoccupant, et ça, c'est observé vraiment dans les enquêtes, c'est qu'un harcelé même s'il est changé d'établissement, même s'il change parce qu'il passe par exemple du collège au lycée, aura tendance à se retrouver à nouveau harcelé. Non pas parce qu'il a une tête de harcelé ou parce qu'il a un profil de harcelé, mais parce que quand on a souffert de harcèlement, on adopte des craintes qui peuvent provoquer la dynamique du harcèlement. Ce qui ne veut pas du tout dire, bien entendu, hein, surtout ne pas faire dire ce que je n'ai pas dit, que le harcelé, c'est bien de sa faute et qu'il l'a bien cherché. Non, non. Mais il y a des dynamiques qui peuvent se reproduire.
Et donc, c'est peut-être en partie pour cette raison que, au cours des dernières années, on a décidé de changer les dynamiques et au lieu de déplacer l'harcelé, on déplace l'harceleur. C'est ça ?
Alors, de fait, ça existait déjà avant.
Ah, okay.
Et c'est extrêmement compliqué parce que pour déplacer un enfant, et d'ailleurs on va voir si avec la nouvelle circulaire du ministre ça change, il faut bien entendu l'accord de ses parents. On ne déplace pas un enfant comme ça si les parents ne sont pas d'accord. Et donc souvent, les parents du harcelé sont en demande que leur enfant soit protégé et changé d'établissement. Les parents du harceleur sont plus souvent en résistance et en non-reconnaissance de ce que leur enfant fait. Et on peut se mettre à leur place, c'est compliqué d'admettre que son enfant puisse être quelqu'un qui harcèle d'autres élèves. Donc, c'est compliqué. Et en fait, il faut vraiment faire du cas par cas en fonction du contexte des enfants, de la dynamique qui se produit. Je disais aussi tout à l'heure que c'est une dynamique. Ce n'est pas aussi simple qu'on s'occupe du harcelé et on s'occupe de ses harceleurs. Il y a les témoins passifs, il y a ceux qui encouragent, il y a ceux qui ne disent rien, il y a ceux qui ont tellement peur d'être harcelés qu'ils se mettent à harceler ou à ne pas dénoncer le harceleur. Donc ce sont des dynamiques qu'il faut attaquer et déplacer des enfants, que ce soit les harcelés ou les harceleurs, n'est pas forcément la réponse ultime au problème. Même si pour protéger à un moment donné un enfant et pour casser une situation impossible à gérer, ça peut être tout à fait nécessaire et pertinent de le faire.
Donc là, on a déjà engagé un peu une conversation sur les mesures qui sont en place. Quelles sont celles, peut-être, est-ce que vous pouvez expliciter un peu, quelles sont celles qui le sont actuellement ?
Alors, depuis, je crois que ça fait un an ou deux, on a le programme phare dont vous avez dû entendre parler, qui a des avantages et des inconvénients. L'avantage qu'a le programme phare, c'est que c'est pas quelque chose de fermé et de codifié qui dirait étape 1, on fait ça, étape 2, on fait ça, étape 3, on fait ça, et qui vaudrait pour tout, de la maternelle au lycée. C'est plutôt une invitation pour les établissements à déterminer leur façon de procéder quand ce genre de cas arrive. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce que on dit souvent que quand il y a une situation complexe et qu'on met dessus une solution simple ou une solution magique, ben c'est la mauvaise. Il est évident que pour s'emparer d'une question, il ne suffit pas de suivre un mode d'emploi quand la question est complexe et douloureuse. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que du coup, c'est beaucoup de travail parce que ça suppose de former les enseignants à tout un tas de les enseignants, les cadres, les personnels aussi de vie scolaire, à tout un tas de méthodes et d'approches différentes et complémentaires pour qu'ils puissent après faire leur miel de tout ça en se disant, nous, ça, on sait déjà un peu le gérer, ça, on a plus de mal dans ce cas de figure-là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme outil, comment on peut améliorer notre dispositif. Et que là, pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour en tirer des conséquences. Mais en tout cas, la démarche me paraît intéressante, même si elle est longue à mettre en place.
Et de ce que vous entendez, ça change déjà des choses ou, parce que c'est vrai que dans les chiffres, c'est peut-être compliqué à voir, mais de votre expérience
Alors, de ce que j'entends, j'ai beaucoup de collègues qui se plaignent de n'avoir toujours pas entendu parler de la formation à ce dispositif. Mmh. Et que souvent, il y en a un ou deux qui sont formés dans l'établissement et c'est souvent le CPE ou le chef d'établissement. Et c'est pas encore redescendu au niveau des professeurs.
Peut-être dans la continuité de cette mesure-là, où il y a déjà quelques complications. La semaine dernière, Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, a annoncé la mise en place de cours d'empathie ou de cours du respect de soi et de l'autre qui devraient être mis en place au courant de l'année. Est-ce que vous pouvez peut-être rapidement nous expliquer qu'est-ce que c'est ?
Alors, il se trouve que je me suis un peu documentée. Alors, il y a des choses que je connaissais, mais je ne connaissais pas les cours auxquels il faisait référence, qui apparemment marchent très bien au Danemark. Je redis, le Danemark a 10 ans d'avance sur nous, donc eux, ils peuvent dire ça marche. Comme nous, on ne peut pas dire au bout d'un an que le programme phare fonctionne, puisqu'il n'est pas encore complètement mis en place et opérationnel. En fait, il s'agit de... Alors, cours d'empathie, c'est un peu réducteur, parce que ça va bien au-delà de l'empathie. Il s'agit plutôt de développer ce qu'on appelle les compétences psychosociales des enfants, dont on s'est rendu compte, parce que ce n'est pas utile que contre le harcèlement, dont on s'est rendu compte qu'elles étaient extrêmement discriminantes pour la réussite scolaire et la réussite en général, la réussite sociale, c'est-à-dire le fait d'être capable de nouer notamment avec les autres des relations sereines et apaisées, justement sans être quelqu'un qui veut imposer sa loi, ni quelqu'un qui plie la tête dès qu'il est face à quelqu'un qui veut justement imposer sa loi. Et tout ça, ça suppose de bien se connaître, de connaître les autres, d'admettre que les autres sont différents. Et c'est extrêmement important. Et c'est des cours qui développeraient toutes ces compétences qui sont dans ces programmes. Et ça me paraît effectivement extrêmement intéressant pour de la prévention.
Et concrètement, ça ressemble à quoi ces cours ?
Alors, dans l'idéal, une fois que, projetons-nous dans 20 ans, on les met en place maintenant, on y forme tous les enseignants. Dans 20 ans, on n'aura plus besoin de faire de cours dédiés parce que les enseignants seront formés à ça et ils le feront naturellement dans toutes les circonstances qu'ils rencontrent au quotidien avec leurs élèves, sans avoir besoin de mettre en place forcément de façon extrêmement formelle des cours. Là, on n'en est pas là du tout. On a encore beaucoup, notamment dans le second degré, des enseignants qui ont du mal à admettre que ça leur a fait partie aussi de leur rôle et de leur responsabilité d'éduquer les élèves. Ils ne sont pas que là pour leur enseigner des choses, ou en tout cas, ça fait partie de l'enseignement, le vivre ensemble et le fait de se comporter correctement les uns avec les autres, ça fait partie des rôles que l'enseignant doit remplir. Donc, il faut commencer effectivement par des choses codifiées, des choses explicites, tant pour les enseignants que pour les élèves. Donc, il va falloir trouver déjà un temps. Et ça, pour l'instant, le ministre ne nous a pas dit sur quel temps de cours cela allait être pris. Il est bien entendu inenvisageable de rajouter des heures de cours aux élèves et aux enseignants qui n'en peuvent déjà plus. Donc, il va bien falloir que ça rentre dans des programmes qui existent déjà.
Et juste pour une question de précision très courte, ces cours-là, ils seraient appliqués dans quel type d'école ? Dans toutes les écoles ou que les maternelles ou jusqu'au
Alors,
lycée ?
Alors, il ne l'a pas précisé, mais de mon point de vue, c'est évident que c'est de la petite section de maternelle à la terminale. Si on veut éradiquer, on ne l'éradiquera jamais complètement, mais si on veut prévenir le harcèlement scolaire de façon efficace et si on veut développer les compétences psychosociales des enfants, il faut commencer tôt et il ne faut pas arrêter son effort en cours de route.
Oui, c'est clair. Et donc, vous avez déjà un peu abordé ça, mais donc il y a un peu un problème de déjà comment est-ce qu'on va le dispenser, mais aussi qui va dispenser ces cours. Donc, vous nous avez déjà évoqué tout à l'heure que les formations en général s'adressent que à certains personnels de l'école. Or là, on viserait donc une formation totale. Comment est-ce qu'on peut mettre ça en place ?
Eh bien, c'est un des gros soucis parce que il y a des choses qui pourraient ne pas nécessiter de formation pour des enseignants qui se sentent à l'aise. Je pense notamment aux professeurs des écoles qui ont l'habitude davantage de mener ce genre d'activité, mais tous ne sont pas forcément à l'aise et forcément prêts à le faire. Donc ça nécessite quand même des modules de formation. Et j'ai entendu donc le ministre voulait commencer à le mettre progressivement en place cette année et que ce soit généralisé à la rentrée prochaine. Pour qu'on soit prêt, il y a un gros travail à faire, au moins d'information déjà sur ce qui existe, sur ce qui peut se mettre en place de façon assez simple pour commencer, pour se mettre le pied à l'étrier. Et pour le moment, alors c'est peut-être prématuré, on va peut-être avoir des annonces dans les jours qui viennent, on ne voit pas de ligne budgétaire et de temps de formation qui se dégage là-dessus.
Oui. Excusez-moi. Donc c'est un peu compliqué en effet de mettre en place tout ça. Pardon, j'ai un petit trou.
Je vous en prie, je suis en empathie avec vous.
Merci. Peut-être qu'on peut expliquer. Donc pour le moment, les marches à suivre, ça serait quoi ? Enfin, donc parce que au Danemark, on proposait un peu des cours de massage ou des choses comme ça. Ça ressemble
Alors,
à ça ?
Alors oui, pour la partie empathie, déjà il y a une question de définition. Hein. On dit souvent que être empathique, c'est être capable de se mettre à la place de l'autre. C'est pas tout à fait ça. Ça c'est ce qu'on pense couramment. Être empathique, c'est être capable de comprendre ce que l'autre ressent sans être contaminé par son émotion. Quand on pleure devant un film, c'est parce qu'on est contaminé par l'émotion de l'acteur qu'il a réussi à nous faire passer. Et si on est en face de quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide et qu'on pleure avec lui, généralement, on ne l'aide pas beaucoup, en tout cas sur le moment où on pleure avec lui, même si après le moment d'émotion, on peut peut-être passer à de l'empathie où effectivement, on a suffisamment de distance pour l'aider. Et donc, c'est ça qu'il s'agit de faire passer aux élèves, c'est de comprendre que les autres ont des émotions et de pouvoir se dire « moi aussi, je peux avoir ce genre d'émotion, je sais ce que ça peut faire » et donc agir en conséquence. Et alors là, pour moi, c'est un peu mystérieux, mais les spécialistes disent, notamment Omar Zana, qui est un spécialiste français de l'empathie, que ça passe aussi par le corps et par le toucher.
Merci beaucoup Stéphanie de Vancey. Nous nous retrouvons dans un instant pour la suite de notre interview. Juste le temps d'écouter Bobby Hebb, Sunny.
Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was formed when we held hands. Sunny, sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Sunny, thank you for that gleam that flows with grace. You're my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny one so true, yes, I love you. Sunny, yesterday all my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really, really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. I love you.
C'était Sunny de Bobby Hebb. Nous sommes avec Stéphanie de Vancey et nous parlons de l'harcèlement scolaire. Donc tout à l'heure, avant cette petite interlude musicale, on avait commencé un peu à évoquer la manière concrète que pourraient prendre des cours d'empathie dans les écoles pour lutter contre l'harcèlement scolaire. Donc j'évoquais le massage notamment des élèves, etc. Donc c'est quelque chose qui en France peut peut-être un peu choquer au niveau du contact physique. Est-ce qu'il faudrait peut-être du coup procéder à quelques adaptations culturelles ?
Alors déjà, ce qu'ils appellent massage dans la méthode danoise, c'est pas tout à fait du massage. Hein. C'est les enfants qui, pendant que la maîtresse raconte une histoire ou le maître raconte une histoire, sont invités à dessiner l'histoire sur le dos de leurs camarades. Donc on n'est pas sur du massage, on est sur du contact physique. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça massage, ce n'est pas exactement ça. En France, on propose une activité, par exemple, qui est extrêmement intéressante, qui s'appelle le jeu des mousquetaires. Si ça vous intéresse, je vous invite à chercher sur Internet « jeu des mousquetaires » et « empathie » et vous trouverez. Où la question, ça permet de mettre le corps en jeu sans être sur la thématique du massage qui culturellement chez nous créerait des réticences. Hein, c'est pas dans notre culture de voilà. De... Et puis la place du massage à l'école, je pense qu'on n'en est pas là. ça serait un peu délicat et ça risquerait d'être mal compris. Le jeu des mousquetaires consiste en un jeu d'équipe où des camarades doivent tenir des positions physiques un petit peu difficiles à tenir, une jambe en l'air, un ballon à bout de bras et des choses comme ça, et où un de leurs camarades doit guetter les moments où ils ont du mal à tenir leur position pour les remplacer. Et l'équipe qui gagne, c'est l'équipe qui a réussi le plus possible avec l'élève supplémentaire qui sert de joker à tenir la position tous ensemble le plus longtemps possible. Donc ça passe par le corps. Ce qu'explique Omar Zana, c'est qu'on comprend mieux les émotions quand c'est compliqué pour certains enfants. Il y a des enfants chez qui c'est inné, c'est très fort, c'est très développé, et d'autres chez qui ça ne veut pas du tout dire que ce n'est pas présent, mais c'est moins développé, c'est moins évident, et que le fait de voir qu'il y a des crispations corporelles, des mimiques, etc., les aide à capter mieux les émotions. Et donc, c'est pour ça que le fait que le corps soit en jeu est important. Et ils disent aussi dans la méthode danoise que ça a un autre avantage, c'est que ça permet, tant qu'on y est sur ce genre d'exercice, de travailler sur le consentement, c'est-à-dire tout exercice qui suppose de toucher les camarades, eh bien, on leur donne l'habitude tout de suite de vérifier que le camarade est d'accord pour le type de toucher qui est prévu et de leur part à eux, c'est-à-dire qu'il est tout à fait acceptable dans ce genre d'exercice qu'on accepte, par exemple, de dessiner dans le dos d'un camarade et pas dans le dos d'un autre parce qu'on est à l'aise avec celui-là et pas avec celui-ci.
Avant de partir sur une autre question, peut-être juste pour préciser pour nos auteuristes, qui est Omar Zana?
Donc Omar Zana, c'est un sociologue et un psychologue français qui est un spécialiste de l'empathie et qui a commencé à travailler cette question avec des délinquants. Il a travaillé avec eux en prison, avec des jeunes délinquants, et il a tiré de son travail et de ses observations des choses qui pouvaient être travaillées en prévention dans les écoles. J'espère d'ailleurs que le ministre fera appel à lui parce qu'on a là un bon spécialiste français qui connaît en plus donc bien notre culture et nos codes et qui dit des choses tout à fait intéressantes. Pareil, je vous recommande ces vidéos, on en trouve assez facilement et ce qu'il explique est extrêmement intéressant.
Mais ça peut paraître un peu étrange quand même, non, de rapprocher la délinquance aux enfants, à l'harcèlement à l'enfance.
Alors oui et non, parce que une des explications de la délinquance, c'est que il s'agirait de jeunes, ceux qui tombent dans la délinquance violente, de jeunes qui ont du mal avec l'empathie, et c'est-à-dire qui ne pourraient pas se mettre, comprendre les émotions qu'ils déclenchent chez leurs victimes en les volant, en les malmenant et en les agressant.
Donc en fait, ça fait un peu une solution miracle, magnifique, ce cours d'empathie qui permettrait d'apprendre l'empathie. Mais est-ce que ça paraît très beau, mais est-ce que ça, vous pensez que ça peut fonctionner vraiment, hein?
Alors, il y a une règle, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Si une solution se prétend miracle, c'est que ce n'est pas une solution.
Oui.
Et d'ailleurs, Omar Zana, vous l'écouterez, ne prétend pas que c'est une solution miracle. Et en plus, il n'y a jamais une seule solution. Là, le harcèlement, on est sur un problème systémique. Hein, je l'évoquais tout à l'heure, on est sur des dynamiques de groupe. Et ce n'est pas juste en travaillant un aspect de la question que l'on va régler le problème. Un problème systémique, il faut des solutions systémiques et donc variées, diverses. Et aucune ne sera magique, et celle qui marchera dans un contexte pour un élève, pour un type de harcèlement, ne marchera pas pour un autre ou pour un autre type d'établissement. C'est pour ça que je trouve que le programme phare est intéressant, oui, parce que justement, il permet une multiplicité d'entrées et il ne fiche pas dans le marbre un protocole unique qui marcherait pour tout le monde.
Et est-ce que vous pourriez proposer peut-être d'autres mesures encore qui vont au-delà de ça ? Enfin, on a déjà la loi de 2022, en mars 2022, qui a été adoptée, qui criminalise l'harcèlement scolaire précisément, qui en fait un délit par exemple. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres mesures. Est-ce que vous pensez que l'État fait assez pour le moment ou il faut faire plus ?
Alors,
c'est beaucoup de questions, désolée.
Je suis une vilaine syndicaliste, donc évidemment que l'État ne fait jamais assez et qu'il devrait faire plus, on est d'accord. C'est un principe de base. Non, plus sérieusement, alors sur la criminalisation, moi je sais qu'on a été consulté au niveau du syndicat, on était contre hein, au niveau du syndicat, il n'y a pas que moi. Que ce soit le harcèlement scolaire spécifiquement, parce que le harcèlement est puni par la loi, qu'il soit scolaire ou non scolaire, ça existe déjà. Bon, après on a entendu un argument assez fort des députés qui portaient cette proposition, qui était que ça permettait de mettre le sujet à l'agenda. Donc, bon, dont acte. De fait, c'est à l'agenda. Peut-être pas seulement grâce à la loi. Après, oui, pour qu'il n'y ait pas de solution magique, il n'y a pas de mystère. Dans un établissement scolaire, pour que les choses se passent bien entre les élèves, il faut qu'il y ait un climat serein. Pour qu'il y ait un climat serein, il faut qu'il y ait suffisamment d'adultes pour le garantir. Et il faut que ces adultes soient eux-mêmes sereins. Actuellement, on est dans des établissements scolaires où il manque des enseignants, où il y a énormément d'enseignants qui font office d'enseignants qui ne sont pas vraiment formés. On a des enseignants en burn-out, on manque de médecins scolaires, on manque d'infirmières, on manque d'assistantes sociales, on manque de psychologues de l'éducation nationale. Et on ne pourra pas régler la question du harcèlement et la prévenir sans embaucher du personnel qualifié en nombre suffisant et sans améliorer les conditions de travail des enseignants. Et ça, pareil, ça ne sera pas magique, mais si on ne fait pas ça, on pourra mettre tous les dispositifs qu'on veut, tous les cours qu'on veut, ça ne suffira pas à endiguer ce phénomène. Et si les adultes ne vont pas bien, les enfants n'iront pas bien non plus. Et là, il y a vraiment un gros, gros travail. Et politiquement, il y a une vraie question dont il faut s'emparer. Une question qui va coûter cher parce que embaucher des gens compétents, leur donner envie de venir. Hein, il faut savoir qu'actuellement, les concours d'enseignants et les concours de médecins de l'éducation nationale, de psychologues de l'éducation nationale, etc., ne font pas le plein. Donc, il faut aussi donner envie aux gens de venir. Et donc, ça passe par les conditions de travail, ça passe par le salaire, ça passe par la considération que toute la société a envers ses personnels.
Oui, donc, c'est un préalable assez conséquent quand même. Ouais.
Moi, ça me semble être une nécessité, pas un préalable. C'est-à-dire qu'on on peut commencer à faire des choses.
Oui.
Mais si on ne fait pas ça aussi, je crains fort que ça soit très, très peu efficace et très culpabilisant pour tous les professionnels qui se seront mobilisés sur ces cours, sur cette formation, etc. et qui verront que ça n'a pas de résultat.
Peut-être pour finir, ça va un peu dans l'idée de ce dont on parlait déjà là tout de suite. Puisque vous parlez de l'exemple de la société de manière générale qui influe sur le comportement des enfants, quid du cyberharcèlement ? Est-ce que ces lois, ces mesures vont toucher le cyberharcèlement ? Est-ce que c'est suffisant ?
Alors, le cyberharcèlement, on a coutume de dire que ça aggrave le harcèlement scolaire. Je ne suis pas convaincue que ça l'aggrave. En tout cas, ça devient un nouveau vecteur, donc c'est sûr que ce n'est pas une bonne chose. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, nos adolescents, notamment, voient sur les réseaux sociaux des adultes, des politiques, des journalistes, des professeurs, des vedettes du rap, qui se harcèlent les uns les autres joyeusement. Non, je dis joyeusement, c'est pas joyeusement, parce que malheureusement, pour les adultes aussi, il y a des conséquences terribles. On a l'impression que c'est dans la plus grande impunité, et c'est en partie le cas. Et ça, là, on est tous responsables pour faire changer ça.
Merci beaucoup, on est là sur un très beau mot de fin, je trouve. Je rappelle que vous êtes donc enseignante et conseillère nationale à la Fédération syndicale de l'UNSA Éducation sur les questions numériques et sur les questions d'éducation. Merci beaucoup et j'espère à bientôt.
Au revoir.
Je m'ennuie à mourir depuis ce matin. J'ai dans la tête des idées bêtes, je pense à rien. Je regarde le vide, sauf quelquefois, où le soleil s'invite à ma fenêtre et change la poussière en paillettes. Comme c'est joli, ça me divertit. Puis nuage passe, poussière s'efface, alors à nouveau je m'ennuie. Seul dans mon lit, ça me rend heureux d'écrire des chansons sur ces instants merveilleux. Et dans mon fort intérieur, j'ai le temps de regarder pousser les fleurs. Ah, 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 non, je n'ai rien d'autre à faire. Rien à détruire et personne à qui plaire. J'évite de presque rien. D'amour et d'insouciance. Et l'ennui me fait du bien. Y'a pas à dire, ça fait du bien d'être immobile, couper les lignes et voir enfin tout ce qui s'anime dans les recoins. les fourmis rouges, le ciel qui bouge à peine, les nuées de crachin. Pourquoi toujours vouloir faire mieux? Travailler tard pour quelques sous, qu'on ira boire pour être sous, pour aller mieux. Mais mieux que quoi? Moi ça me suffit de brasser l'air avec mes bras. Et dans mon corps intérieur, j'ai le temps de regarder pousser les fleurs. Ah, ah, ah non, je n'ai rien d'autre à faire. Rien à détruire et personne à qui plaire. Je vis de presque rien. L'amour est insouciance. Et l'ennui me fait du bien. C'est vrai, ça me ressemble.
C'était D'amour et d'insouciance de Voyou. Et tout de suite, on accueille Constance. Bonsoir Constance. Bonsoir.
La matinale de 19h.
Dans ta chronique intitulée « C'est compliqué », tu vas nous parler de la situation au Haut-Karabakh.
Tout à fait, on va essayer de comprendre ce qui s'y passe. Alors tout d'abord, l'Arménie, c'est un territoire qu'on décrit souvent comme enclavé dans la région du Caucase du Sud. Et le pays se situe pile poil au croisement d'un voisinage hyper facile à vivre, à savoir la Turquie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Iran. Il existe une enclave du territoire arménien en Azerbaïdjan, une région montagneuse qu'on appelle le Haut-Karabakh et qui est quasi exclusivement peuplée d'Arméniens. Vous pourrez aussi rencontrer le nom Artsakh, c'est la même chose, c'est simplement le nom en arménien. Or, cette enclave de un peu plus de 4000 km² est disputée depuis des décennies, et le conflit n'est absolument pas récent. C'est Staline qui a tranché dans les années 20 et qui a rattaché cette région, qui est quand même restée autonome, à l'Azerbaïdjan, malgré sa population arménienne. En fait, c'était précisément dans l'idée de diviser pour mieux régner et de ne pas permettre l'émergence de mouvements identitaires au sein de l'URSS.
Et depuis ?
La région a ensuite fait l'objet de deux guerres en 35 ans, une première entre 88 et 94, qui s'est soldée par la victoire de l'Arménie, qui était aidée par la Russie, et c'est un conflit de grande ampleur qui a fait plus de 30 000 morts. Et lorsque l'URSS s'est effondrée, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont retrouvé leur indépendance, et le Karabakh a proclamé aussi la sienne en 91. Mais en fait, personne n'a reconnu la République du Karabakh, même pas l'Arménie, qui pourtant la soutient aussi bien politiquement qu'économiquement et militairement. Donc après de multiples accrochages, un second affrontement de 44 jours a eu lieu en 2020. Et cette fois-ci, le rapport de force s'est inversé. C'est l'Azerbaïdjan qui l'a emporté, grâce au soutien turc, au prix d'environ 6000 morts. Le Haut-Karabakh et ses alentours sont donc repassés sous le contrôle azéri, avec un nouveau cessez-le-feu qui était censé être garanti par la présence de soldats russes.
Est-ce que cela a mis fin aux tensions ?
En fait, les tensions, elles n'ont jamais vraiment disparu. Les choses ont même empiré en décembre dernier. Donc, je vous l'ai dit, le Haut-Karabakh, c'est une enclave au sein du territoire de l'Azerbaïdjan. Donc, celle-ci a pu fermer une bande de terre qu'on appelle le corridor de Latchin. Officiellement, elle l'a fermée pour mesure de sécurité, mais en fait, ça a gravement entravé l'approvisionnement de la région, aussi bien en nourriture qu'en médicaments. Et finalement, le 19 septembre, l'Azerbaïdjan est passé à l'offensive de nouveau. Officiellement, elle menait une opération antiterroriste. La Russie, qui est sans doute accaparée par le conflit ukrainien, n'a pas opposé de grande résistance alors que c'était sa sphère d'influence, et les séparatistes arméniens du Karabakh ont plié. Et le 28 septembre dernier, le dirigeant du Haut-Karabakh a signé un décret de dissolution du territoire au 1er janvier 2024.
Quel bilan peut-on dresser pour l'instant ?
100 000 personnes ont fui du Haut-Karabakh vers l'Arménie. Ce départ massif poussant à parler d'une épuration ethnique. C'est un constat qui s'inscrit dans une longue histoire de l'extermination des Arméniens. On peut citer le génocide qui a été commis par les mouvements des jeunes Turcs à partir de 1915 et qui vient rappeler qu'encore aujourd'hui, la Turquie comme l'Azerbaïdjan conçoivent les Arméniens comme des ennemis absolus. Certains ont aussi dénoncé un silence de la communauté internationale. Par exemple, si le président Macron a appelé à la résolution du conflit par la seule voie diplomatique et à la cessation ferme du recours à la force, force est de constater justement qu'au-delà des premiers financements d'urgence pour l'aide humanitaire, les actions se font attendre, aussi bien au niveau français qu'européen. On a expliqué ça par un potentiel conflit d'intérêts pour l'Europe qui achète du gaz à l'Azerbaïdjan. En bref, l'histoire de ce conflit, qui est enlisée depuis des décennies, est excessivement riche. Je vous ai fait un résumé très condensé. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Azerbaïdjan et l'Arménie se disputent pour des raisons à la fois ethniques, historiques, territoriales, la souveraineté sur le Haut-Karabakh, qui est une région qui s'était elle-même déclarée indépendante. Et le conflit a abouti ces dernières semaines à une catastrophe humanitaire. Bref, c'est compliqué, mais maintenant, vous savez pourquoi.
Merci Constance.
Le Zoom, dans la matinale de 19h.
Et maintenant, c'est l'heure du Zoom. Bonsoir Chloé.
D'être avec nous ce soir. Alors c'est un plaisir de te recevoir dans le Zoom de la rédaction qu'on consacre un petit peu, enfin c'est à l'occasion de la sortie du clip de Peau Neuve, ta nouvelle chanson. Nouvelle chanson que je propose qu'on écoute d'abord pour commencer juste maintenant.
L'hiver qui arrive à son terme s'est inscrit dans mon épiderme et j'ai perdu toutes mes plumes. Voyage mes cicatrices comme une flamme dans les coulisses qui me démange et me consume. Qui pourrait me sauver, me saisir, me ressusciter, fait qu'apparaisse une main tendue. Car je ne peux me relever et voudrais t'en laver d'une caresse mon cœur à nu. Faire peau neuve, peau neuve, table rase du passé. Pourvu qu'il pleuve, un fleuve, des trombes d'eau et d'or sacrées. Je mute comme la saison, débute ma transformation, je ne suis plus tout à fait la même. C'est l'heure de mes retrouvailles, sans armure et sans médaille, dans mon plus simple appareil. De tout mon être, je bascule dans ce flot d'amour qui m'accule. Je veux que ne cesse cette parade nouvelle. Je m'engouffre dans la candeur de ce souffle réparateur qui me résolve et me révèle. Je fais peau. Qui s'efface comme par magie tout doucement et qui exauce mes prières. Dans les effluves d'un hammam, deux dames s'entretiennent dans ma âme et plus rien d'autre autour n'existe. Elle est sauveuse, je suis sauvée, parfum d'argan et d'oranger comme seul remède à toutes mes prises. Je me réveille dans la fumée et dans tous mes pores embués se fait sentir le doux présage d'une nouvelle éternité, d'une pluie d'or étoilée, la lune éclaire mon visage. Je fais peau. Pour vu qu'il pleuve un fleuve.
J'ai pas envie de gâcher la fin, c'est vraiment... Peau Neuve, c'est ça, c'est cette superbe chanson, mais c'est pas que ça, si on a bien compris, c'est aussi un projet plus global. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Ouais, en fait, il y a 3 ans, j'ai vécu un grand bouleversement dans ma vie intime et professionnelle. J'ai eu un changement de vie un peu radical, comme ça, c'est un peu la vie qui s'était organisée pour ça, mais tout est devenu chaotique. Je me suis séparée, j'ai déménagé, j'ai arrêté ma tournée, j'avais plus de maison de disques et je me suis retrouvée un peu comme ça, dans un espèce de no man's land, une traversée du désert un peu incroyable, où en fait tout était possible. C'est-à-dire que vraiment, pour la première fois dans ma vie, je pouvais vraiment aller changer de vie totalement, aller élever des chèvres dans le Larzac ou je sais pas quoi, ou faire autre chose, arrêter la musique. Et en fait, tout était possible, quoi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais... Ces moments-là où on se dit, mais en fait, je vois plus rien, je sais plus qui je suis, ce que je vais faire et tout ça. Et je suis partie pendant 6 mois voyager. Donc, je suis partie dans les montagnes toute seule avec mon clavier, mon micro et mon ordi. Et j'ai fait des chansons, en gros. Et je suis arrivée jusqu'au Maroc. Pendant un confinement, donc je suis restée bloquée au Maroc et je suis allée dans un hammam. Et donc voilà, j'étais dans cette période hyper compliquée de ma vie et tout. Et il y a une femme donc dans le hammam, le vrai hammam Beldi et tout, qui a commencé à m'enlever ma peau morte, quoi. Tu vois, je mettais des seaux d'eau comme ça et je voyais ma peau partir et tout. Et là, j'ai une espèce de révélation mystique où je me suis dit, oh, mais putain, en fait, je suis en train de muter, quoi. Je suis en train de me transformer, de faire peau neuve, en fait. Et après, j'ai eu ce déclic de peau neuve. Et après, je me suis dit, mais c'est un album, en fait, peau neuve. Et donc, je suis partie dans cet album qui maintenant devient un spectacle, qui devient aussi un livre, qui devient plein de trucs. Voilà.
C'est quand même une période de vie que certaines personnes peuvent trouver angoissante, inquiétante. Mais toi, c'est quelque chose qui t'a permis de créer ce renouvellement total. Ça t'a pas du tout angoissé
Si, ça m'a grave angoissé, évidemment. Mmh. J'étais, entre guillemets, dans une vie un peu toute tracée, parfaite, avec machin, enfin, tu vois, très équilibrée et tout. Et puis d'un coup, bam, il y a tout qui se pète la gueule. Mais vraiment, genre, un mois, tout se pète la gueule. Et tu peux vraiment, t'as plus aucun repère. Donc, évidemment que j'étais hyper angoissée. En plus, c'était pendant les confinements et tout. Donc, t'es un peu loin de tout le monde et tout. Mais je me suis dit, en fait, je suis obligée de me confronter à ça. Je peux pas aller dans du coton, me réfugier dans les bras de mes parents ou de mes frères et sœurs, machin. Il faut que j'aille me confronter à ma réalité, quoi. En fait, que là, j'ai tout perdu quelque part. Et donc, je suis partie voyager. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé une voie, en fait, quelque part, tu vois.
Et du coup, quand tu parles de ce hammam et de ces peaux mortes, j'imagine que le clip que j'aimerais bien que tu nous décrives, parce que nous on l'a vu, mais les auditeurs peut-être pas, et en tout cas on est à la radio donc on voit pas, ça a sans doute un lien avec cette image-là.
Ouais, complètement. En fait, ce clip, donc je suis partie au Maroc beaucoup et tout ça, et j'avais vraiment envie de symboliser l'image de mon album avec le désert. Parce que pour moi, le désert, ce que je trouve hyper beau dans le désert, c'est qu'il n'y a rien. Donc à la fois c'est mort. Et à la fois, ça peut être comme un nouveau jour, le début du monde ou la fin du monde, là, le désert. Et je trouve que c'est un peu comme un espèce de purgatoire. C'est-à-dire que Peau Neuve, pour moi, c'est entre la mort et la naissance, quoi. On ne sait pas trop. C'est un mouvement comme ça. Et donc, en fait, ce clip, c'est on me voit. En fait, j'ai été enterrée dans le sable, dans le Sahara.
Vraiment enterrée.
Ouais, vraiment. J'avais un tuyau pour respirer et tout. J'avais 150 kilos de sable sur moi. J'arrivais même pas à respirer tellement c'était lourd et tout. Donc, c'était hyper angoissant. Et l'idée de ce clip, c'est un plan séquence qui dure. On l'a fait 6 fois, le morceau. Donc, ça a duré hyper longtemps pour que j'arrive à sortir de ce sable. Et en fait, ça m'a mis, moi, dans une insécurité absolue en tant qu'être humain. Et donc, en fait, c'est comme une performance quelque part artistique, on va dire. Et grâce à ça, moi qui suis pas comédienne, qui suis chanteuse et compositrice, et ben, j'ai pu vraiment, les émotions qu'on voit dans le clip, je pleure et tout, je crie et tout. Et c'est vraiment des émotions que j'ai vraiment vécues pour de vrai. Et donc, c'est presque un peu documentaire. Et en fait, l'idée de l'enterrement, je trouve, c'est qu'à la fois, quand y a quelque chose qui sort du sol, c'est comme une plante qui naît. Et à la fois, l'enterrement, c'est vraiment un symbole de mort. Et donc, j'aimais bien aussi être dans cette espèce de confusion.
C'était pas quelque chose que tu faisais avant dans tes autres clips, par exemple, précédemment, de ressentir comme ça et d'éprouver physiquement
Pas du tout. Okay. Dans mes autres clips, même dans mes autres albums, j'étais beaucoup plus. J'étais dans une grosse maison de disques, j'étais dans un truc très pop, un peu presque coupé de l'émotion. Pas coupé de l'émotionnel, parce que j'ai toujours été un peu dans l'émotion, mais j'osais moins, en fait, j'osais moins montrer les parts moches de moi, en fait, quelque part. Et là, en fait, avec ce Peau Neuve, j'ai aussi eu envie de montrer toutes les parts de moi qu'on veut parfois cacher un peu.
C'est pour ça, et c'est à cette période-là que tu as créé ton label aussi. Du coup, pour avoir plus de liberté, parce que tu avais peut-être l'impression d'être un... ton univers était coupé dans ta maison de
disparition. En fait, c'est surtout que parfois, on devient un peu un truc commercial, un produit quelque part commercial. Et on dit, ah ouais, regarde, Clara Luciani, elle a fait ça, ça a marché, tu devrais faire pareil, ou tu devrais faire un remix, mettre un pied sur tous les temps pour passer à la radio. Et en fait, à des moments, tu fais, ah bon, bah, ils me disent de faire ça, tu vois, et tu sais même plus pourquoi tu le fais. Là, au moins, j'ai repris possession de tout ce que je faisais, quoi, tu vois. Et je pense que ce clip et même de réaliser mon album et d'arranger mon album, j'aurais peut-être pas fait si j'étais en maison de disque, tu vois.
Et comment on tourne concrètement dans le désert? Comment on travaille dans le désert? Comment on crée dans le désert? Il n'y a rien, enfin je veux dire, il y a des conditions difficiles.
Ah non, il n'y a rien du tout,
Donc tu disais que tu étais avec ton clavier et carnet.
Non, mais dans le désert, le clip par exemple, je suis allée que avec la photo, enfin la photographe, c'est un clip photographique, et moi on n'était que toutes les deux. Et il y a quelqu'un qui nous aidait à me foutre du sable sur moi. Il n'y avait aucune assistante, il n'y avait pas eu de make-up. Enfin, c'était vraiment mais à l'arrache absolue. Et c'est un des clips, quelque part, les plus aboutis et cinématographiques que j'ai fait. Et c'est le clip qui a coûté le moins cher de l'humanité. Enfin, évidemment, il y a eu les billets de train pour aller... les billets d'avion, je veux dire, pour aller là-bas. Et puis, on a fait des shootings photos et tout. Mais je veux dire, concrètement, c'était moi, du sable et un appareil photo. Enfin, tu vois, c'était quand même pas grand-chose, quoi.
Et est-ce que, du coup, tu as l'air de dire que là, tu dirais que c'est un recommencement à zéro, quand même, ce que tu es en train d'effectuer là depuis 3 ans.
Ouais.
Tu as quand même des figures un petit peu qui t'inspirent, des artistes qui t'inspirent, qui sont tes sources d'inspiration, ou c'est vraiment hors sol complètement?
Non, il y en a plein, évidemment. En fait, moi, les artistes qui m'inspirent, c'est ceux qui ont l'audace de faire un truc qui ressemble à personne, en fait. Enfin, qui sont pas justement dans les conventions. En fait, c'est des artistes qui veulent pas rentrer dans un jeu commercial. Moi, les artistes qui me plaisent, c'est les artistes qui osent des trucs un peu expérimentaux, même des clips chelous, des albums bizarres, qui se renouvellent tout le temps, qui veulent pas rentrer dans la case, qui s'en foutent, en fait, qui veulent faire de l'art, en fait, tout simplement, quoi. C'est ça qui me touche, moi.
C'est ça que t'as envie de faire, en fait, toi.
Ouais.
Et j'ai vu qu'il y avait un podcast, une idée de podcast...
qui est sorti déjà, ouais, cet été, où j'ai raconté un peu toute mon histoire, toutes mes aventures, mes voyages et tout, dans ce podcast-là, qui est sorti cet été, ouais.
C'était pas des choses qui étaient possibles, j'imagine, d'avoir un univers aussi énorme, avec des maisons de disques. Là, cette liberté, c'est toi qui te l'as...
Si, parce que tu peux l'avoir, mais il faut avoir beaucoup de... C'est-à-dire qu'en fait, quand t'es un projet en développement dans une grosse maison de disques, tu dois un peu batailler pour faire ta place, parce qu'à côté, t'as des énormes artistes, tu vois, qui rapportent beaucoup d'argent. Donc en fait, là, d'être moi, entre guillemets, le gros projet dans mon petit label, bah, il y a beaucoup plus d'attention, il y a beaucoup plus d'énergie, il y a beaucoup plus de, tu vois, d'énergie autour du projet que quand t'es un peu noyé dans beaucoup de sorties, quoi, tu vois.
Et tu dis que c'est donc un projet global, mais c'est aussi ton projet le plus personnel pour toutes les raisons que tu nous as évoquées jusque là. Mais est-ce que aussi par les textes, par les choses que tu as décidé de raconter dans cet album, elles sont encore plus personnelles qu'avant?
Ouais, complètement, parce que justement, encore une fois, je parle un peu aussi beaucoup, enfin plus de mes zones d'ombre. J'ai un peu plus, je suis allée un peu plus dans les parts sombre, quoi, tu vois. Et mais pour justement,
c'est quoi ces parts sombres?
Les parts sombres qu'on connaît tous, tu vois, mais on a du mal à partager ça, en fait, vraiment, je crois. On a du mal à partager ça parce qu'on est dans des sociétés ultra pressurisantes d'image, de réussite, de rendement, de performance, et en fait donc on est là à essayer de se contorsionner pour essayer d'être super et tu vois, d'être rayonnant, alors que en fait on a tous des trucs super durs à expérimenter, à vivre, et en fait c'est aussi en parlant de ça que tu peux te relier vraiment aux autres. Et je me suis rendu compte là, avec ma mini expérience de peau neuve, j'ai sorti que un titre et un clip, il est même pas sorti l'album, que j'ai jamais eu des retours comme ça toute ma vie, jamais, tu vois. Et je me suis jamais autant dévoilée toute ma vie aussi. Donc en fait, quelque part, plus tu vas dans l'intime, plus tu touches à l'universel, je crois.
Qu'il y aurait tu dirais qu'il y a un petit peu une injonction à être parfait, à être super et à pas parler des choses qui vont pas.
On le fait de plus en plus, je trouve que c'est bien, la parole se libère vachement, mais je trouve qu'on est dans des sociétés qui sont super, super dures par rapport à ça, et c'est des sociétés, je les vois avec mes nièces qui sont des ados et tout, on est pressurisés, quoi. Les êtres humains sont pressurisés dans nos sociétés, ne nous aident pas à être dans une paix, quoi, je trouve. Avec nous-mêmes. Donc, c'est à nous de s'éduquer, quoi.
Paix que t'as trouvé quand t'étais dans les montagnes créées.
Ouais, que j'ai trouvé en me disant que, en fait, j'avais le droit de pas tout réussir, de pas, tu vois, d'échouer, de pas être parfaite, d'avoir échoué ce couple, d'avoir échoué plein de trucs dans ma vie. Et c'est pas pour ça que je suis nulle et c'est pas pour ça que je vaux rien, tu vois.
C'est des beaux discours, je pense. Peut-être parler un petit peu de tes projets. Donc, tu disais, il y a donc ce clip-là, cette chanson. L'album, il va sortir quand, ce spectacle, un petit peu en termes de...
Ouais, l'album il sort le 20 octobre là.
Ouais.
À Paris à la Cigale le 18 mars, mais qui commence à bien se remplir. Donc faut prendre des places rapido. Et puis après je suis en tournée. J'ai ma première date c'est samedi et je pars en tournée pendant un an et demi avec ce spectacle qui est vraiment peau neuve. C'est vraiment un spectacle, c'est-à-dire que c'est plus un spectacle musical qu'un concert. Il y a vraiment toute une scénographie, il y a tout un aspect assez écrit, dramaturgique et tout. Je suis toute seule sur scène. J'ai un piano à queue, mais j'ai pas mal de machines et c'est assez électronique. Et en fait, j'ai vraiment, je fais un peu mon truc, je m'enregistre en direct. Et c'est moi qui interagis sur la scénographie, sur les éléments de décor et tout.
D'accord, ok.
Ouais.
Bah écoutez, franchement, on rappelle Nash, Peau Neuve. On va suivre avec attention tout ce que tu as fait. Et merci à toi d'avoir été avec nous
plaisir.
Ce soir.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et avant de clôturer cette émission, on va d'abord écouter la virgule.
La matinale de 19h.
Et puis maintenant, on accueille Simon et Rosalie qui joignent ce soir leurs forces pour nous parler d'un sujet qui leur tient à cœur.
Le syndrome de l'imposteur, un sacré syndrome, mais je dois vous avouer que je ne me sens pas experte en parler, pas comme Gabrielle Réhab, qui est une experte sur le sujet au fond, qui je suis pour parler de ce sujet, mais malheureusement vous m'avez demandé une chronique. Donc me voilà, le syndrome d'un imposteur est un sentiment entretenu d'incompétence et de doute de sa personne et de ses compétences qui persiste malgré le succès scolaire et professionnel. Alors là vous allez me dire, mais c'est très long, mais ne vous inquiétez pas, cette chronique sera courte d'une minute trente. Et bon, je suis psychologue, enfin je n'ai pas été la meilleur dans les universités. C'est vrai que maintenant je donne des cours à Harvard, mais ça ne fait que 5 ans, donc vous voyez bien que je débute dans le milieu.
Hey, on avait dit un sujet qui vous tient à cœur, pas deux.
Ah oui, c'est vrai.
Faut dire qu'on est quand même un être humain, on a deux oreilles.
Ouais, mais pas deux attentions, si vous voyez ce que je veux dire.
En tout cas, qu'est-ce qui peut accorder tout le monde?
L'argent. Pour la question à un SMIC de 2002.
Brut ?
Non, l'année. Pour la question à un SMIC de 2002. Sachant que les maximales observées en France, à part le Finistère, vont de 30 à 35 degrés, peut-on en déduire que nous sommes ? Réponse A, le 4 juillet. Réponse B, le 2 octobre. Réponse C, le 30 février. Réponse D, faux.
Je suis pas sûre de ma réponse. Hein. Vous m'auriez donné le choix entre le 2 octobre et Sophie la girafe, j'aurais pas hésité. Mais là, entre la réponse 4 juillet et faux, j'ai un énorme doute.
Eh oui, vous êtes dans une émission de haute volée. Prends ça, question pour un champion. Il doit bien se marrer là où Julien le perce. Toujours est-il qu'il vous reste deux jokers, l'appel à un ami et l'avis du public, bien sûr.
Bon, effectivement, je vais peut-être prendre l'appel à un ami.
Et au vu de votre seule liste d'amis, c'est simple puisqu'il n'y avait qu'un seul ami.
C'est mon meilleur ami même.
En plus, on l'appelle.
J'espère qu'il va répondre, il est quand même très occupé. Mais bon, dès que ça parle d'environnement, là il est au taquet.
En général, oui. Oui, bonjour, c'est pour la question à un SMIC de 2002, pas le brut l'année.
Ouais man, je suis sur un gros coup là, je sais que t'es un mec, t'es toujours là pour ses amis. Donc là ma question, en gros, quand il fait chaud, ça veut dire qu'on est à quelle date? Le 4 juillet, le 2 octobre, le 30 février ou faux?
On est attaché à la bagnole, on aime la bagnole. Et moi je l'adore.
Et je crois que nous avons perdu la ligne avec cet adorateur de bagnole à l'Elysée. Est-ce que ça vous a mis sur la voie quand même?
C'est ma bagnole qui met sur la voie. Bah ouais, sans elle, sur la voie du droite du périph', j'ai l'air un peu con.
Oui, et du coup, on a besoin d'une réponse, là.
Bah, c'est-à-dire que j'ai acheté ma voiture le 28 mars. C'est quand même beaucoup plus proche de février. Donc je pense qu'il voulait m'orienter vers la C, donc le 30 février. Mais en même temps, c'était une année bissextile. Ça me paraît étonnant.
Quelle est votre réponse, du coup?
Je dirais... Oh là là, c'est dur, non. Je dirais faux.
C'est votre dernier mot?
C'est mon dernier mot.
Et la bonne réponse... Et c'est perdu, c'était vrai.
Et merde, je savais que j'aurais dû m'arrêter au SMIC de 1999.
Et oui, au moins vous êtes prise la tempête de fin 99. Pour celles et ceux qui ont la rêve, merci d'avoir joué à une question pour un SMIC. On se retrouve si on n'est pas mort de soif entre-temps.
Merci beaucoup Rosalie et Simon pour cette merveilleuse chronique et ce question pour un champion. C'est ça?
Qui veut gagner un SMIC?
Ah, qui veut un 15... Pardon. Mais du coup, t'as gagné le SMIC ou pas? J'ai pas compris.
Non,
Ah, malheureusement. Mince.
Et oui, bien sûr.
Mince, c'est mais triste. Ça, et du coup, qui le gagnera, le SMIC? Il y a d'autres éditions qui arrivent ou pas?
On a essayé, mais peu de personnes veulent le SMIC de 99, apparemment en France, et ça rend plus grand-chose en euros.
Non, c'est plus terrible. En tout cas, la morale, parce qu'on est quand même des comiques à morale, la morale de cette histoire, c'est qu'on est le 2 octobre et qu'il a fait 29 degrés à Paris. Voilà, c'est la morale du jour. C'est
un peu inquiétant.
Bien sûr.
Déjà, on est tous en train de suer alors qu'on est en octobre. Moi, j'avais rangé mes affaires d'été. Oui, c'est nuit
et
aussi.
Fait nuit.
Oui.
Après, moi, je suis de novembre, je vais pouvoir fêter, je vais pouvoir faire un petit barbecue le jour de mon anniversaire. Ça, je l'attendais
ça,
quand même depuis assez longtemps. J'étais assez jaloux de mes amis haoussiens et haoussiennes. Ouais. Donc, c'est plutôt chouette quand même.
Donc finalement, la voiture, c'est génial, en fait.
on adore la bagnole, comme disait l'autre.
Oui, ça réchauffe. Plus besoin de mettre du chauffage chez soi.
Exactement.
Ouais, j'avoue. Et pourquoi faire des plans
d'énergie
chelous, de gaz, de je sais pas trop machin. Du coup, ça nous ramène aussi à mes sujets de small talk du début, en fait.
Exactement.
Ouais, sur le Nord Stream et tout qui a explosé. Comment on fait pour se chauffer si le Nord Stream a explosé? Pas besoin. Parce qu'en fait,
le
réchauffement climatique fait très bien l'affaire.
Exactement.
On
embrasse le réchauffement climatique.
Sur ces belles paroles, je pense qu'on va pouvoir conclure cette belle matinale. On se retrouve demain à la même heure. Et maintenant, je vais donc remercier Chloé pour l'interview, Rosalie et Simon pour leur chronique et Constance aussi pour ta chronique. Merci beaucoup. Et merci évidemment aussi à nos invités Stéphanie Devancet avec qui nous avons parlé de harcèlement scolaire, je le rappelle, et de Nash, excuse-moi. D'avoir été à l'allemande, exactement. C'est mes origines qui me trahissent à chaque fois, même si on l'entend pas. Donc d'avoir été parmi nous ce soir, on a très hâte d'écouter ton album en entier. Et puis, quant à nous, il est 19h56 sur la matinale. Demain, on parle de quoi? On parle
d'autres choses.
Demain, on parle du Haut-Karabakh, il nous semble. Donc on a eu déjà une petite annonce avec notre chronique de notre chère Constance. Et puis, sur ce, on arrête. Merci beaucoup et à demain.